vous intéresser à l'histoire.
Archive.
Portrait de Serge Macamad, itinéraire d'un nomade. Serge, vous êtes Touareg, installé à Pradinas en Aveyron, où vous avez créé un lieu d'accueil et de réflexion autour de la culture Touareg. Avant d'emprunter vos pas pour évoquer votre parcours, quelques mots sur vos origines. Alors, vous êtes né où et dans quelles conditions ?
Je suis né à Agadez, donc dans le désert nigérien. J'ai grandi là-bas, j'ai reçu une double éducation, l'éducation Touareg et l'éducation occidentale par la suite à travers l'éducation scolaire.
Comment est-ce que vous pourriez évoquer quelques éléments de votre enfance, de votre adolescence, qui nous fassent imaginer ce qu'est l'éducation Touareg ?
L'éducation Touareg fait partie de la vie intégrante de l'enfance. C'est-à-dire, dès la naissance, l'enfant est pris en charge par sa mère, qui se charge de son éducation. Éducation, donc, l'écriture, car nous avons notre propre écriture, le tchifinar, la lecture, le béaba de la médecine, donc les simples qu'on utilise, l'histoire de notre peuple, ce qui est paradoxal, parce que c'est une histoire orale. Elle se charge de nous enseigner les premiers éléments de la lecture dans le sable. Et après ça, donc, on est pris en charge par l'oncle maternel qui prend la relève, surtout vis-à-vis du garçon, et qui enseigne la lecture de la carte du ciel, les constellations, les étoiles, les reconnaître à travers le temps. Je vais aller très vite. Donc, l'enseignement également plus approfondi du sable, la lecture dans le sable, connaître les traces des différents animaux qui y vivent, les interpréter pour pouvoir déterminer le passage de l'animal dans le temps, aiguiser les sens, parce que l'enfant ou le jeune adolescent est susceptible de déterminer si un vent de sable va se lever ou pas, ce qui pourrait être dangereux lors d'un voyage, ou alors on aiguise également les sens pour retrouver facilement un point cardinal.
Vous avez donc connu la vie itinérante dans le désert ?
Complètement, mais je vais rectifier un peu. Ce n'est pas une errance dans le désert. La vie nomade chez les Touaregs, c'est une transhumance qui est bien structurée, qui correspond à des critères. Et les critères premiers, c'est la sauvegarde d'un patrimoine qui n'appartient pas aux Touaregs, mais qui appartient à l'universel, au monde, c'est le territoire, la terre. Pour nous, pour les Touaregs, la terre n'appartient à personne, mais appartient à Dieu. Et on doit laisser la terre comme on l'a trouvée. Donc, quand il y a un campement ou quand on doit se déplacer pour aller à un autre point, on tient compte de l'érosion, on tient compte des effets climatiques, on tient compte de pas mal d'éléments. Et si on s'aperçoit, malgré la présence de l'eau et des pâturages, si l'arrivée de plusieurs campements risque d'être nuisible, dans ce cas, on cherche ailleurs.
Vous avez parlé tout à l'heure de double éducation, donc vous n'avez pas reçu seulement l'enseignement de votre mère, vous êtes allé à l'école également.
Oui. J'ai été à l'école française vers l'âge de 8 ans et au début je ne savais pas exactement où me conduirait l'école ou même ce que je faisais là. J'allais à l'école comme je participerais à une activité, car dans notre monde, dans le monde Touareg, chaque individu participe à une tâche. Les plus jeunes gardent les moutons, les agneaux ou le petit bétail, et plus on grandit, plus on a des tâches, des responsabilités plus importantes. Et j'allais à l'école d'une manière un peu automatique, sans savoir. Je répondais à une demande, celle de mon grand-père qui m'a demandé de rester, de suivre cette éducation, ces cours. Et j'ai commencé à prendre conscience de la valeur ou de ce que représentait le système éducatif français à partir du collège. Donc là, c'est une roue qui a tourné. Ça a été, bien sûr, après le lycée, donc après le bac, la fac.
D'accord. Mais à partir de ce moment-là, vous aviez une vie sédentaire, à partir du moment où vous êtes allé à l'école.
Je ne crois pas que j'ai accepté, à un moment ou à un autre de ma vie, la vie sédentaire. Je vis actuellement en France, à Pradinas, mais j'ai du mal à rester quelques semaines sur place. Je suis toujours en train de bouger, toujours de par mes activités ou surtout de par le combat que je mène pour mon peuple.
Je crois que vous avez quitté le Niger à l'âge de 17 ans pour venir en France.
Je ne me rappelle plus l'âge exact parce que, si vous voulez, bon... L'âge pour nous ne compte pas, si vous voulez. On n'a pas des critères bien déterminés comme des actes de naissance ou des pièces d'identité pour déterminer l'âge d'un individu. De par ma scolarisation, je suis équipé donc de ces documents. Je suis venu en France surtout après mon bac. Je viens d'un pays pauvre et on va là où on obtient des bourses. Ayant obtenu une bourse d'études en France, donc je suis venu en France.
Quel était votre objectif en venant en France ?
Au lycée, avec une, on était 4 Touaregs, donc et donc au lycée, on s'était fixé des objectifs. L'un de nous devait faire géologie. Un autre devait être juriste, un troisième devait faire l'école normale sup, et moi, le journalisme. Donc j'étais destiné à faire du journalisme uniquement dans le but de défendre les causes de notre peuple. Parce qu'on savait déjà, à cette époque, c'était dans les années 75, 74-75, on savait qu'il y avait un bouleversement qui est en train de se réaliser et qu'il fallait aller très très vite.
C'était dans l'optique de rester en France ou de retourner ensuite au Niger ?
Non, je ne suis jamais venu en France dans l'objectif d'y rester. Actuellement, je suis un passager aussi bien en France que sur cette terre. Donc,
quand vous êtes arrivé en France, est-ce que ça a été une vision assez contrastée ? Est-ce que vous vous souvenez de la façon dont vous l'avez perçue à ce moment-là ?
Ce qui m'a beaucoup frappé, en tout cas le souvenir que j'ai, c'est le rôle des anciens, des vieux et... J'ai été un peu écœuré quand même, un peu frappé de ces espèces de mouroirs dans lesquels on mettait les grands-parents parce qu'on avait besoin de partir en vacances ou parce que il devenait impotent et c'était une charge pour la famille. Et ce qui m'a également frappé, c'est le peu de considération vis-à-vis de ces personnes âgées. Et troisièmement, l'individualité des gens dans une structure familiale.
Je crois que pour vous, la famille, ça ne se limite pas justement au père, à la mère et aux frères et sœurs.
Non.
C'est non. Toute une communauté.
Dans le sens large, c'est toute une communauté. C'est n'importe quel individu est pour nous quelque part un frère. Donc la chute d'un individu ou la prostitution d'un individu, quand je dis prostitution, je ne veux pas parler de quelqu'un qui vend. D'une femme ou d'un homme qui vend son corps, mais la prostitution d'un individu, c'est pour moi la prostitution de toute une culture, de tout un peuple.
Pour revenir à cette culture Touareg, quelle est la part de la culture que vous avez gardée ? Est-ce que vous avez tout gardé de la culture Touareg ?
Totalement. Et même quand je parle, actuellement je parle en français, je pense en Touareg et je traduis après.
Et dans tout ce qui peut établir les relations entre l'homme-femme ou les relations à l'intérieur de la société, tout, absolument tout.
Vous savez, la femme a un rôle important chez nous. Je suis né dans un monde où sévit un régime matriarcal, Donc une femme riche, quand je dis riche, c'est sur le plan structurel, sur elle a une liberté, si vous voulez, c'est elle qui détient l'instruction. Je ne peux pas me défaire de cette image de la femme libre, de la femme noble, dans le sens noble du terme, hein, et non dans le sens économique du terme.
Et cette image du Touareg qui porte une épée?
Mais c'est une image qui est réelle, qui est vraie. C'est une arme qu'on reçoit à l'âge de 14 ans, qu'on garde, qui est la compagne de tous les jours. Et combien de fois on a eu la vie, sauf grâce à cette épée. L'épée représente pour nous quelque chose de symbolique. Et aujourd'hui encore, dans le désert, chaque Touareg porte avec lui son épée.
Est-ce que vous l'avez reçue?
Je l'ai reçue. Actuellement, elle fait partie des objets qui sont exposés au musée Touareg que nous avons créé à Pradinas.
Vous avez évoqué Pradinas, on va y revenir dans un petit moment, mais avant d'y arriver, est-ce que vous pouvez donc résumer quelles ont été donc la suite de votre formation? Vous avez parlé tout à l'heure d'études en journalisme.
Oui, mais je n'ai pas été très loin, car très tôt, je me suis penché dans les études de droit, donc je suis juriste de formation. Après mes études, donc après quelques années d'études à Assas, j'ai travaillé dans la région parisienne. J'ai créé mon propre cabinet en tant que consultant international. Et en 91, quand il y a eu le génocide qui a atteint son apogée, j'ai tout laissé tomber pour pouvoir me consacrer au peuple Touareg, pour sa défense au niveau donc des instances internationales.
Et donc, est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez choisi de créer ou de participer à une structure pour parler de la culture Touareg? Est-ce que c'est tout de suite que ce combat a pris sa forme?
Non, ce combat est très ancien, je vous dis, très tôt, donc on a pris conscience dans un pays pauvre, mais où il y avait quand même certaines structures, que nous, notre région était démunie de tout. Je prends l'exemple, par exemple, du Nord Niger, qui apporte 90% ou plus de 90% du budget national brut, de par son sous-sol, de par l'uranium, de par le charbon. L'État n'a rien développé chez nous. On n'a même pas, par exemple, à Agadez, qui est la ville la plus importante, un hôpital digne de ce nom. À Nouararen, où on exploite le charbon qui fait tourner les turbines, donc qui alimente le Niger en électricité, l'école, les élèves s'éclairent encore à la bougie. Alors donc c'est tous ces petits éléments qui nous ont fait prendre conscience de quelque chose. Et surtout, le regard, cette espèce de haine que jetait sur nous la population, les populations du sud du Niger.
Thank you.
À la structure donc que vous avez créée ou à laquelle vous avez participé. Est-ce que vous pouvez donc expliquer quelles étaient vos motivations quand vous êtes arrivé à Pradinas?
J'ai connu tardivement l'Aveyron. Je ne connaissais que l'Aveyron sur le plan géographique. Et à travers les démarches que j'ai effectuées à Bruxelles, j'ai rencontré un des responsables ou même le patron, le président du groupe RDE de la Communauté européenne, et qui est Christian de la Malène, qui est un Aveyronnais, et c'est lui qui m'a donné un peu le goût de l'Aveyron. Donc je vous disais tout à l'heure, j'avais tout arrêté, j'avais tout laissé tomber mes activités qui fonctionnaient très bien pour me consacrer aux miennes, et je cherchais un point de chute dans le sud de la France où je pouvais à la fois travailler pour gagner un peu ma vie, mais surtout où je pouvais disposer du temps pour développer une structure culturelle de défense du peuple Touareg. Il s'est trouvé qu'Ousmane, qui est Touareg, qui était à Pradinas, voulait partir, donc vendait son restaurant. Je l'ai acheté, mais ce restaurant, je ne voulais lui donner qu'une part infime dans les activités. Je voulais donc créer un musée Touareg, ce qui a été fait depuis le 24 mai 1994. Et j'avais deux autres projets, c'est la création d'une école de découverte qui sera ouverte sur le monde rural, parce que je crois beaucoup au monde rural, d'où ma présence dans l'Aveyron, et qui sera également ouverte sur d'autres civilisations. L'autre projet, c'est la création d'une médiathèque, une médiathèque sur le monde saharien.
Donc, Pradinas existe. Est-ce que vous pouvez, donc, en conclusion, un peu évoquer ce qui s'y passe, les gens qui viennent, la fréquentation sur l'année?
Alors, à Pradinas, on travaille beaucoup avec des associations de troisième âge ou des associations à caractère culturel qui viennent passer une journée. Donc, entre les différentes activités, il y a également le repas qui est souvent un repas typiquement berbère au restaurant, mais également, bien sûr, on sert des plats aveyronnais, donc des plats régionaux. La région nous offre pas mal de possibilités et on passe également un temps fou dans ce musée. Au début, les gens, quand on aborde, surtout les clubs de troisième âge, quand on aborde cette visite de musée, il y a une espèce de frein. Et après, on a du mal à les refaire descendre parce qu'on part dans une explication, dans une vie. On les transporte complètement, ils sont complètement transportés dans le Sahara. Et je me rends compte de plus en plus que la culture Touareg accroche les personnes âgées qui ont connu une vie qui était moins trépidante que ce qu'ils vivent aujourd'hui.
Vous avez donc le sentiment que vous avez réussi à parler de la culture Touareg, là en Aveyron, que vous avez réussi d'une certaine façon une partie de votre combat?
Mon but de n'est pas me fixer ou m'arrêter à l'Aveyron pour faire parler de la culture Touareg. En dehors de Pradinas, je participe à pas mal de colloques et surtout pas mal d'expositions. Je suis l'un des initiateurs de l'exposition sur le monde Touareg qui s'est déroulée à Tervuren, une des plus grandes expositions. Elle a duré 8 mois. Bientôt, il va y avoir également une grande exposition à Rome, donc, avec la participation de Giancarlo Castelli, un éminent ethnologue italien. Pourquoi ces expositions dans différentes capitales? C'est pour continuer de tirer la sonnette d'alarme sur ce qui se passe chez nous.
Vous êtes très nombreux à vous intéresser à l'histoire. Archive.